On m'a donné la tâche de parler ce soir sur le sujet des larmes de Babylone à la joie de Jérusalem. Ça devrait être un peu une introduction à tous ces sujets qui vont être abordés ces jours-là. Ça donne un peu un contexte historique de la main de Dieu. Mais nous aurons quand même des applications pratiques, car l'histoire, c'est une des voies ou des possibilités par lesquelles Dieu nous parle. On voit les traces de Dieu dans l'histoire et particulièrement dans l'histoire sainte, donc dans l'histoire décrite par la parole de Dieu. Sur la feuille, vous voyez une première date fondamentale, 722, les Assyriens déportent les 10 tribus. Il s'agit de cette catastrophe décrite en 2 Rois 17, où l'Empire assyrien, qui était le premier pouvoir du Proche-Orient à l'époque, a détruit le royaume du nord d'Israël, le royaume des 10 tribus, pour les exiler en Irak du Nord actuel, en Assyrie. Dans la suite, il y avait encore le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et voilà, il faut quand même bien comprendre que pendant l'époque du royaume des 10 tribus, il y avait tout le temps des gens qui sont descendus du nord au sud, lorsqu'ils ont réalisé que Dieu est toujours avec la tribu de Juda, qui était toujours en contact, en relation directe avec le temple de Dieu. Et on peut lire ça dans 2 Chroniques 15, 2 Chroniques 30, dans l'histoire d'Ézéchias. Et finalement, il y avait donc du monde, de tous les 10 tribus qui sont allés au sud. Donc même après la déportation assyrienne, il y avait dans le royaume de la Judée toujours les 12 tribus présentes. Mais il y avait bien sûr à la tête la tribu de Juda, qui était la tribu royale de la lignée de David. Et voilà, le royaume sud est finalement devenu même encore pire dans l'idolâtrie que les 10 tribus. Et c'est pour ça que Dieu a dû intervenir par son jugement. Et cela est le deuxième point sur notre feuille, 606 à 586. Trois conquêtes de Jérusalem. Dépeuplement de Jérusalem et pillage par les Babyloniens. On va voir ces trois guerres contre Jérusalem dans un chapitre. 2 Chroniques 36. Voilà la première attaque au verset 5. Je lis. Jéhoiakim était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Et fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Et Nebuchadnezzar emporta à Babylone une partie des ustensiles de la maison de l'Éternel et les mit dans son temple à Babylone. Voilà, c'est cette conquête de Jérusalem qui est également décrite en Daniel 1, à partir du verset 1er. Et c'était le moment où aussi Daniel et ses trois amis étaient amenés en Babylonie. 606. D'ailleurs, selon une chronologie stricte de l'Ancien Testament, qui prend chaque chiffre de la Bible au sérieux, on peut mettre d'ailleurs Tous les chiffres historiques de l'Ancien Testament dans un système qui en soi est absolument cohérent. Et dans ce système chronologique, alors l'Exode, la sortie d'Égypte, était à l'an 1606. Donc exactement 1000 ans depuis la sortie, la délivrance de l'Égypte, jusqu'à au commencement de cette catastrophe où le royaume sud a été détruit finalement par les Babyloniens. Deuxième captivité, voilà 2 Chroniques 36 au verset 9. Jéhoiakim était âgé de 18 ans lorsqu'il commença à régner. Et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et au retour de l'année, le roi Nebuchadnezzar envoya et l'amena à Babylone, avec les objets désirables de la maison de l'Éternel. Et il établit Sédéchias, son frère, roi sur Juda et sur Jérusalem. Voilà, c'était à l'an 597 avant Jésus-Christ. Cette deuxième déportation, qui est d'ailleurs la même mentionnée en Ézéchiel 1, à partir du verset 1er. C'était la déportation où le prophète Ézéchiel fut emporté en Babylonie. Et voilà, le point culminant se trouve au verset 17. Là, on a la destruction de Jérusalem à l'an 586. Je lis à partir du verset 17. « Et il fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua leur jeune homme par l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Il n'eut pas compassion du jeune homme, ni de la vierge, ni de l'ancien, ni du vieillard. Il les livra tous entre ses mains, et tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs, il emporta tout à Babylone. Et ils brûlèrent la maison de Dieu, et abattirent la muraille de Jérusalem, et brûlèrent par le feu tous ses palais, et tous ses objets désirables furent livrés à la destruction. Et il transporta à Babylone le reste échappé à l'épée. Et ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils jusqu'au règne du royaume des Perses. Afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposa, jusqu'à ce que 70 ans fussent accomplis. Voilà, c'est la destruction et cette guerre terrible qui était la fin d'une grande partie de la population et une autre partie a été amenée en captivité à Babylone. Il y avait encore une quatrième phase de l'exil qui est d'ailleurs seulement mentionnée en Jérémie 52, j'indique juste le verset pour ceux qui s'intéressent. C'était à l'an 582. Voilà ce qui est décrit en Jérémie 52, verset 30. Ce n'est pas tellement connu parce qu'il y a seulement ce verset là-dessus. Encore une minorité a été envoyée à Babylone. Avec ça, la royauté de Juda est venu à sa fin. Donc cette royauté que Dieu avait mis dans les mains du roi de David, tout en lui donnant la promesse que de sa descendance viendra un jour le Messie, roi du monde, roi en Jérusalem. Et voilà, les fils de David ont continué à régner sur ce trône à Jérusalem, jusqu'à la destruction de Jérusalem, et c'était la fin de la royauté. Ce qui était a suscité la grande question, mais où sont les promesses de Dieu en vue de la royauté du Messie qui devrait venir? Tout était par terre, tous les espoirs étaient détruits en quelque sorte. C'est pour ça qu'on parle des larmes de Babylone. Et j'aimerais, dans ce contexte, lire quelques versets du psaume 137, qui exprime d'une façon tellement touchante les sentiments des Juifs à l'époque. Et ça montre aussi combien tous ces événements que je viens de citer étaient des événements fondamentaux. Donc une rupture fondamentale dans l'histoire juive. Psaume 137, auprès des fleuves de Babylone. Euphrate, le Tigre. Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré. Quand nous nous sommes souvenus de Sion, Sion, le mont du Temple à Jérusalem, au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient amenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-nous un des cantiques de Sion. Vous voyez, les Babyloniens avaient le désir d'entendre un peu cette musique exotique, la musique des croyants de Jérusalem qui était bien différent du bruit à Babylone, duquel on lit par exemple en Daniel 3. Chantez-nous un des cantiques de Sion, non pas de Babylone. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasé, rasé, jusqu'à ses fondements », etc. Voilà, cela nous donne donc une impression combien les espoirs juifs étaient détruits par terre. Et voilà le troisième point sur notre feuille, 70 ans, Babylone au pouvoir. Nous lisons Jérémie 25, 11, une prophétie remarquable, car le prophète indique des chiffres exacts, des dates exactes pour l'avenir. Ce qui, pour les faux prophètes, est excessivement dangereux. Ce qui ne l'est pas pour un vrai prophète, comme nous allons voir. Jérémie 25, 11. Et tout ce pays sera un désert, une désolation. Et ces nations, donc les nations autour d'Israël, au Proche-Orient, qui avaient été conquises par la Babylonie, et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Jérémie 29, au verset 10. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. J'ai dit les espérances étaient par terre. Mais déjà le prophète, dans la détresse, annonce les nouvelles espérances. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Et je rétablirai vos captifs, et je rassemblerai d'entre tous les nations et de tous les lieux où je vous aurai chassé, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transporté. De nouveau, 70 ans. Mais on peut avoir un problème tout en lisant la parole de Dieu, parce que, bien sûr, le point 4 sur notre feuille indique « Puissance mondiale, les Perses en guerre contre les Babyloniens » Daniel 5, 29 à 30. Voilà, à l'an 539, les Mèdes et les Perses font la guerre contre la Babylonie, et ils font la conquête de la ville de Babylone et prennent le pouvoir au Proche-Orient, et même plus loin, finalement, de l'Égypte à travers le Proche-Orient jusqu'en Inde, ou en Pakistan actuel, qui autrefois faisait partie de l'Inde. Oui, alors, c'était à l'an 539, et depuis 606 jusqu'à 539, ça fait presque 70 ans, mais 67, c'est pas encore 70. Eh bien, on dit tout le temps, les Juifs étaient 70 ans dans la captivité. Mais où est-ce que c'est écrit? Nous avons simplement lu que pour Babylone, lorsque les 70 ans pour Babylone sont passés, alors le jugement viendra sur la Babylonie. En plus, on a lu que ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Pas seulement Israël, ces nations. Et effectivement, j'ai déjà parlé au point 1 de l'Empire assyrien, qui était au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, donc le pouvoir mondial numéro 1. Mais à l'an 612, la Babylonie, avec les Mèdes et les Scythes, ont pu faire la conquête de la ville capitale, la ville de Ninive, comme c'était écrit prophétiquement dans le livre de Nahum, où pratiquement chaque verset est accompli à la lettre. Après, il y avait encore plusieurs guerres, et finalement, en 609, le royaume assyrien était vraiment complètement par terre, et la Babylonie était l'empire numéro un sur cette terre. Et voilà un empire qui a pris pouvoir d'autres nations Proche-Orient, et finalement, en 606, aussi du royaume juif. Mais l'empire babylonien était de 609 à 539, ce qui fait exactement 70 ans. La prophétie s'est accomplie. Mais il est beau de voir comme à la fin de toute cette période babylonienne, et ce qui était aussi la fin de cette captivité terrible des Juifs, Daniel étudie la parole de Dieu. En Daniel 9, nous lisons « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et le cendre. Et je priais l'Éternel, mon Dieu, et je fis ma confession, etc. Eh bien, la première année de Darius, le Mède, c'était également l'an 539 avant Jésus-Christ. Donc, c'est la même année comme la première année de Cyrus, roi de la Perse. Car ce Darius était un sous-roi Mède. Et à la tête du royaume était le roi Perse Cyrus. Alors, exactement là, dans cette année où la Babylonie a été conquise par les Perses et les Mèdes, Daniel lit la parole de Dieu. Donc, vous voyez ici, on a un cas où l'Ancien Testament cite l'Ancien Testament. Il y a d'autres passages encore. Mais, alors, ça nous montre comme déjà à l'époque, Daniel était un étudiant de la prophétie biblique. Et il était vraiment sur le moment de voir la prophétie et son accomplissement. Et ce n'était pas simplement un travail intellectuel. On voit que cela l'amène à rechercher l'Éternel, à confesser le péché de son peuple pour réaliser donc l'état coupable du peuple choisi qui aurait dû être un témoignage, mais au lieu d'être un témoignage, était digne du jugement de Dieu. Donc c'est quelque chose qui nous encourage à voir que il faut étudier la parole de Dieu et aussi la parole prophétique, entre autres au moment où les choses se réalisent. Et il a bien compris, voilà, maintenant, le plan de Dieu est accompli. C'est le moment où Dieu va tout changer pour Israël. Comme il avait déjà annoncé en Jérémie, on a lu quelques versets concernant ce fait. Eh bien, il faut d'ailleurs encore expliquer, la ville de Babylone n'a pas été détruite par les Mèdes et les Perses à l'époque. Ils ont seulement fait la conquête et les Perses ont pratiquement entièrement reçu tous les politiciens qui étaient installés à Babylone pour être des politiciens après Perse. C'est pour ça Daniel, n'est-ce pas, Daniel 5 est mentionné là sur la feuille où il a expliqué l'écriture sur le mur, l'écriture de Dieu sur le mur, pour expliquer au dernier roi de la Babylone, Belshazzar, que maintenant les Perses vont arriver et prendre pouvoir, ce qui s'est réalisé encore au cours de cette nuit-là. Eh bien, Daniel, dans le chapitre prochain, Daniel 6, il est toujours un grand politicien à Babylone, mais maintenant sous le règne des Perses. Et voilà, on lit dans le prochain point sur la feuille, 539, la conquête de Babylone, décret de Cyrus, roi de Perse. Et nous allons lire en Esdras 1, verset 1er, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Vous voyez aussi là, en Esdras, Jérémie est cité. L'Ancien Testament cite l'Ancien Testament. Et il fit une proclamation dans tout son royaume et la publia aussi par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda ? Et qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, à Jérusalem. Et celui qui est de reste dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide avec de l'argent et avec de l'or et avec des biens et avec du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, il est remarquable de voir que le texte nous explique « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus ». Donc, Dieu agit directement dans l'histoire et il peut influencer et changer et tourner les hommes de pouvoir. Et alors là, il donne aux Juifs la permission pour retourner au pays des pères, des ancêtres, pays d'Israël qui, dès ce moment-là, était une province perse. Mais les Juifs avaient donc le droit de retourner, rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple et reconstruire. Donc, un État juif semi-autonome, sous l'autorité des Perses. Et voilà, le roi de Perse encourage les Juifs à retourner pour bâtir le temple. Nous allons lire en Ésaïe 45 la prophétie. Que Ésaïe, environ 160 ans avant, où l'Empire perse n'existait pas encore comme un empire mondial, et Cyrus n'était pas encore mort, longtemps avant, nous lisons en Ésaïe 44, verset 28, pardon.
Oui.
Il s'agit de Dieu qui dit de Cyrus, « Il est mon berger ». Il accomplira tout mon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti, et au temple, tes fondements seront posés. Donc les deux choses, la ville et le temple. Je continue. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui des nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les deux bâtons devant lui, afin que les portes ne soient pas fermées. Moi, j'irai devant toi et j'aplanirai les choses élevées. Je briserai les portes des reins et je casserai les barres de fer et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, justement, il a mentionné le nom de Cyrus, Je t'ai appelé par ton nom. Je suis le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un nom, c'est-à-dire un nom d'honneur, puisque au verset premier, il l'appelle son oint, ce qui en hébreu, son messie. Donc, quelqu'un qui est roi par onction, en hébreu, est un messie. Mais c'est quand même, il faut quand même souligner que c'est le même titre que le roi des rois des derniers jours portera. Et lui donne ce nom. Je t'ai donné un nom, donc un titre, et tu ne me connais, tu me connaissais pas. Moi, je suis l'Éternel. Donc, le seul vrai Dieu, en contraste avec les faux dieux de la Perse. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu si ce n'est moi. Je t'ai saint et tu ne me connaissais pas. Afin qu'ils sachent depuis le lever du soleil et depuis le couchant qu'il n'y en a point hors à moi. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Eh bien, Joseph Flav, l'historien juif du premier siècle, nous raconte qu'on avait montré à Cyrus le texte d'Ésaïe. Donc, on lui a montré, voilà, la prophétie s'est accomplie à la lettre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'était justement pour convaincre cet homme incroyant, pour voir qui est le seul vrai Dieu, parce que dans la littérature des religions, il n'y a pas de la vraie prophétie comme dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la vraie prophétie est une preuve fondamentale pour montrer qui est le seul vrai Dieu, le Dieu qui n'est pas soumis à l'espace et au temps. N'est-ce pas? Les fausses religions n'ont pas de la vraie prophétie parce qu'ils adorent des faux dieux. Bien sûr, derrière lesquels se trouvent des démons, des anges des ténèbres, mais les anges sont aussi soumis à l'espace et au temps. Bien sûr, même qu'ils peuvent plus vite bouger que les hommes, les êtres humains, mais on lit clairement en Job 1, lorsque Satan, donc le chef des anges des ténèbres, arrive devant le trône de Dieu, d'où est-ce que tu viens? Donc il explique qu'il vient de ses promenades sur la terre. Donc lorsque... Je viens expliquer ça en Colombie, dans les assemblées, dimanche passé, j'ai dit, lorsque Satan est en Inde, il n'est pas à Bogota au même moment, et lorsqu'il est à Bogota, il n'est pas au même temps à Pereira. Bien sûr, il a ses démons qu'il a stationnés partout. Et c'est pour ça, lorsqu'il est en Inde, il a toujours ses démons à Medellín, et même beaucoup là-bas. Mais ça, ils ont compris. Alors, ils sont aussi soumis au temps et à l'espace. Même en Daniel 10, on voit un ange de Dieu qui arrive vers Daniel et s'excuse qu'il est 3 semaines en arrière. Et parce qu'il a été en combat avec un démon qui faisait la guerre contre la lumière. Eh bien, le seul vrai Dieu est donc le Dieu qui n'est pas soumis à l'espace et au temps. C'est pour ça que Dieu insiste là aussi dans notre texte lu en Ésaïe sur son nom l'Éternel. Donc celui qui est omniprésent et qui n'a pas de commencement, pas de fin, et qui n'est pas soumis au courant du temps. Alors, les Juifs, beaucoup d'entre eux, lorsqu'on lit Esdras 2, on réalise environ 40 000 hommes sans retourner. Si on ajoute encore les femmes, environ 80 000, les enfants, alors on peut penser environ 200 000 Juifs sont retournés en Israël, à Jérusalem, pour d'abord reconstruire, non pas la ville, mais le temple. Et nous lisons en Esdras 3, je dois donc expliquer que justement, seulement une partie est retournée. Il y a donc d'autres qui sont restés, d'ailleurs aussi Daniel. Mais d'abord, il était très âgé, et deuxièmement, il avait toujours encore un travail missionnaire à Babylone. N'est-ce pas? Il était missionnaire à Babylone. Parce que par sa vie, les Babyloniens ont pu apprendre qui est le seul vrai Dieu, qui sait l'avenir, Daniel 2. C'était seulement Daniel qui pouvait expliquer le rêve de Nebuchadnezzar. Et pendant toute sa vie, à Babylone, décrit en Daniel 1 à 5, on voit que Daniel était une sorte de missionnaire à Babylone et il a continué pour les Perses. Et voilà, pour des raisons de la mission, il n'avait pas donc la tâche pour retourner à Jérusalem. Mais il y avait d'autres. Il restait parce qu'on sait par l'histoire que beaucoup des captifs sont déjà devenus de nouveaux riches à Babylone. Et les riches n'aiment pas sortir de leur maison.
C'est comme les riches à New York, n'est-ce pas, qui n'aiment pas rentrer à Jérusalem. Bien sûr, ils donnent de l'argent pour l'État d'Israël, et à l'époque aussi. Les riches se considéraient comme étant l'aide pour les pauvres qui sont retournés pour recommencer à zéro. Alors, Esdras 3, donc on peut dire en quelque sorte un résidu fidèle, retourne pour rebâtir le témoignage à Jérusalem. Il retourne à Sion, lieu du témoignage de Dieu, parce que là devait être le temple la loi, la Torah, explique en Deutéronome 12, versets 13 à 14, que Israël n'avait le droit d'avoir seulement un temple au lieu choisi par l'Éternel. Pourquoi un seul temple? Parce que il y a seulement un seul vrai Dieu. Et le seul temple devait être un témoignage pour le seul vrai Dieu. Les païens avaient beaucoup de dieux et ainsi beaucoup de temples. Alors, retourner à Sion à l'époque était clairement un travail aussi de témoignage missionnaire pour les autres peuples, quand on a rebâti le temple, pour montrer qu'il y a un seul vrai Dieu, et c'est le Dieu de Jérusalem. Chapitre 3. Et quand il arrive le septième mois, le fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Voici l'unité des retournés. Et Jéjua, fils de Jotsadak et ses frères, les sacrificateurs, et Zerubbabel, fils de Shealtiel et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir, etc. Donc, il retourne immédiatement de la Babylonie et ensuite il commence avec l'autel. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple pour recommencer le culte pour le seul vrai Dieu. Donc, il commence seulement de bâtir le temple proprement dit, la maison, dans l'an prochain, comme on lit au verset 8. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zerubbabel, fils de Shealtiel, et Jéjua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent à établir les lévites depuis l'âge de 20 ans. Et puis, verset 10, et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs, etc. Donc là, il commence la maison. Mais tout de suite, on a pu commencer avec le culte. D'ailleurs, la même tactique, on va faire pour le troisième temple. N'est-ce pas, les Juifs ont perdu le deuxième temple à l'an 70, après Jésus-Christ. Et ils n'avaient plus la possibilité pour rebâtir, pas pendant 70 ans, ou presque 70 ans, mais pendant presque 2000 ans. Mais la parole prophétique nous dit en Osée 3, verset 4, que les fils d'Israël resteront pendant beaucoup de jours sans, je cite exactement, Osée 3, verset 4, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice et sans statut et sans éphod ni théraphim. Vous voyez, beaucoup de jours, non pas pour l'éternité, beaucoup de jours sans sacrifice et sans état, ce qui veut dire sans prince, sans roi. Mais aussi beaucoup de jours sans sacrifice, donc pas pour l'éternité. Il faut bien lire la parole de Dieu lorsqu'elle dit, elle parle de peines éternelles. Ce sont des peines éternelles. Et lorsqu'elle parle d'une période, d'une longue période de beaucoup de jours sans sacrifice, c'est une longue période. Alors, ça devrait revenir. Et voyez, dans la guerre des six jours, en 1967, Israël a conquis de nouveau le mont du Temple, Sion. Mais ce n'était pas libre pour rebâtir le Temple. Mais il fallait ce temps parce qu'il fallait quelques décennies pour reconstruire les ustensiles du Temple et pour être au clair comment reconstruire. Et maintenant, une grande partie est prête. J'ai eu entre mes mains, donc pas des maquettes, mais des vrais ustensiles. J'ai vu la table d'or, des pains de proposition, l'autel pour le parfum. C'est préparé pour l'encens. J'ai vu le chandelier d'or préparé pour le deuxième temple, troisième temple, mais la place n'est pas encore libre. On attend encore le moment, mais on a déjà préparé les pierres pour l'autel. Pour les amener depuis le quartier juif à Jérusalem, qui est juste à l'opposé du mont du Temple, en vitesse sur la place du Temple pour recommencer avec les sacrifices. Alors, on va faire comme ici. D'abord, l'autel, et voilà le culte, marche. Il ne faut pas forcément la maison du Temple. Donc, simplement pour faire un parallèle, on revient et on voit donc dans ce chapitre cette joie après cette longue période de larmes. Je lis au verset 11. Esdras 3, verset 11. « Et ils s'entrent, répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussa des grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. » C'est pour ça le titre « Des larmes de Babylone à la joie de Jérusalem ». La ville n'était pas rebâtie, le temple proprement dit, et même pas les cours, pas encore, mais l'autel. Et c'était déjà un sujet de grande joie. Au chapitre 4, nous lisons donc des ennemis qui finalement s'opposent complètement contre les Juifs. Et finalement, ils ont du succès parce qu'ils laissent intervenir le roi Artaxerxès, ou Artaxasta plutôt, qui donne donc qui édite le commandement qu'il faut arrêter avec la reconstruction du temple. Mais il faut bien savoir que ce Artaxasta, au chapitre 4, verset 7, en histoire, correspond à Pseudosmerdis, qui par un coup d'État est venu au pouvoir pendant seulement 3 mois. Et cela était à l'an 522 avant Jésus-Christ. Malheureusement, il y a plusieurs chronologies que j'ai vues qui sont faux en relation avec ce chapitre. Et c'est parce que plusieurs ne connaissent pas ce Pseudosmerdis qui correspond justement à ce Artaxasta. Et c'est pour ça, alors, si vous lisez que l'époque où les Juifs ont arrêté de reconstruire, c'était une période de plus de 10 ans. C'est faux. C'était à l'an 522, pendant le règne de Pseudosmerdis, qui était 3 mois au pouvoir. Mais après, était remplacé de nouveau par un roi légal, si on peut dire, qui était Darius. Et voilà. Je lis au chapitre 4, verset 23. Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès, ah bon, en français c'est Artaxerxès, en hébreu c'est Artaxasta, Mais ce Artaxerxès, il ne faut pas mélanger avec Artaxerxès qui est mentionné en Néhémie 2. Voyez, ce qui était un autre roi. Artaxerxès d'Esdras 4, verset 23, c'est Pseudosmerdis. Du roi Artaxerxès eut été lu devant Rehum et Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues. Ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par force et par puissance. Alors le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa. Elle fut arrêtée jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Voilà ce Darius qui succédait après 3 mois déjà. Et voilà, cela nous amène au service des prophètes Agée et Zacharie. Je lis juste encore en Esdras 5, verset 1er. Et les prophètes Agée, le prophète et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Yeshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Voilà, après 2 ans, jusqu'à la deuxième année de Darius, le travail avait cessé. Mais à ce moment-là, les deux prophètes recommencent à reconstruire le temple. Et ils encouragent par leur prophétie le peuple de travailler avec eux. Mais il est remarquable, ils ne disent pas simplement baptiser le temple, mais c'est eux qui commencent. Par leur exemple, ils exercent donc une autorité morale et spirituel. C'est un peu différent comme dans l'armée suisse. Alors, les officiers disent « Allez-y », n'est-ce pas? Mais en Israël, c'est différent. Là, les officiers sont dans la tête et ils disent « Acharai, suivez-moi ». Et c'est une des raisons, humainement parlées, qui explique aussi le succès d'Israël dans les guerres du passé. Et voilà, c'est exactement la manière d'agir d'Agée et de Zacharie. Et lorsqu'on ouvre maintenant encore, pour bientôt finir, en Agée, chapitre 1er, et je lis au verset 2 la première prophétie. Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, « Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temple de la maison de l'Éternel, pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agée, le prophète, disant, « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos bois. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud, etc. » Donc, il sollicite le peuple en leur disant, mais pourquoi vous ne travaillez pas pour l'Éternel et son temple, mais vous vous intéressez à vos maisons? Il ne dit pas, mais je comprends, n'est-ce pas? Le pouvoir politique de la Perse ne permet pas la reconstruction du temple. Mais il ne parle pas de ça. Donc, il y avait le commandement donné déjà en Exode 25, verset 8, que Israël devrait bâtir un sanctuaire afin que l'Éternel habite en milieu d'eux. Et ce commandement de la Torah était toujours valable. Et alors, il fallait retravailler même là où les ennemis étaient contre. Et bien sûr, les Juifs se sont dit, mais maintenant on ne peut plus, alors on travaille pour nos maisons. Mais l'Éternel voit dans les cœurs que, en réalité, ils étaient bien d'accord de pouvoir changer dans la priorité. Et c'est pour ça, alors, il leur explique, mais vous avez mis les priorités d'une fausse manière. Donc, on pourrait écrire sur Agée, et son message, le verset de Matthieu 6:33, qu'il faut premièrement rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Fausse priorité, et c'est pour ça qu'il y avait malédiction dans leur vie et non pas bénédiction. Mais ce qui est remarquable, c'est la réaction du peuple à cette prédication. Je lis juste après la prédication qui va jusqu'au verset 11, le verset 12. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, etc. Donc, ils entendent la prédication, ils agissent. Et ils recommencent le travail du temple. Mais c'est remarquable. Combien de fois on entend le message de l'Éternel par la prédication, toujours de nouveau, et puis on ne réagit pas. Ça ne change pas notre vie. Mais un message, voilà, c'est clair. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Il faut complètement changer et mettre les priorités afin que le Seigneur ait la première place dans notre vie. C'est ça le message, parce que le Seigneur n'accepte pas la deuxième place ou la troisième place, comme on apprend aussi par la lettre à Éphèse, Apocalypse 2, où le Seigneur dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour, je te mets à côté comme témoignage. Je mettrai le chandelier à côté. Eh bien, le Seigneur veut la première place. Il prêche, le peuple écoute. Une fois, j'ai vécu vraiment quelque chose comme ça. J'étais, il y a 3 ans environ, à Buenos Aires, en Argentine, et j'ai donné une conférence sur Matthieu 24, les signes des derniers temps, et entre autres, comme il est dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de signes de prodiges, de séduction, et beaucoup de faux prophètes. Et il y avait là un homme qui était un pasteur d'une église charismatique, d'ailleurs aussi son fils, qui n'était pas charismatique. Et ils avaient un problème, le fils et père. Et voilà, le fils ne savait pas qu'on va traiter finalement aussi de ce sujet-là, parce que c'était annoncé le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, mais mon père, va-t-il tout d'un coup sortir? Il restait jusqu'à la fin. Le dimanche prochain, il s'est mis devant la communauté, il a dit, je ne veux plus qu'on parle en langue ici. Ceux qui veulent parler en langue, devrait partir. Et après, on m'a dit qu'il a complètement changé son église. Et puis j'ai pensé, oui, mais peut-être c'était un peu le feu et le tempérament de l'Amérique du Sud. Mais maintenant, après 3 ans, je rencontre de nouveau un missionnaire allemand qui travaille à Buenos Aires et me dit, ah oui, c'était toujours la même chose. Et maintenant, il a même pris l'affiche de l'église et changé Iglesia Evangelica Biblica. Et il y a quelques versets, mais pour lui, la parole de Dieu était aussi forte. En Matthieu 24. Ah bon? Alors, il a compris. Et c'est la même chose avec le résidu. Ils ont tourné complètement. Et voilà, je finis encore avec les derniers points. Voyez là, 516. Achèvement de la construction du temple avec joie et reconnaissance pour l'œuvre achevée. Esdras, chapitre 6. Et voilà de nouveau la grande joie. Esdras 6, verset 16. Il célèbre la dédicace de cette maison avec joie. Et plus tard, 457, second retour à Jérusalem avec Esdras. Un plus petit groupe retourne avec Esdras, écrit en Esdras, chapitre 7. Et je continue, 445, Néhémie prend la tête du troisième et dernier convoi. Décrit en Néhémie 2. Néhémie retourne pour reconstruire la ville. Parce que même que Cyrus avait donné la permission de reconstruire la ville, les Juifs n'avaient pas reconstruit, comme on apprend par Néhémie 7. Quelques maisons étaient rebâties, mais autrement, ni le mur, ni la ville, seulement le temple. Et alors, Néhémie retourne pour reconstruire la ville par la permission de Artaxerxès II, roi à l'époque. Et d'ailleurs, ça c'était le commencement de l'accomplissement de la prophétie de Daniel 9, 25. Depuis la sortie de la parole pour rebâtir et reconstruire Jérusalem, on peut calculer donc l'époque où le Messie va venir. Pourquoi il fallait calculer ces semaines de Daniel, non pas depuis Cyrus, mais depuis Néhémie 2? Parce que, voyez, la prophétie de Daniel 9 dit, il y aura depuis l'édit de reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du Messie comme prince, 69 semaines d'années. Donc 69 fois 7 années. Mais il est dit, d'abord 7 semaines d'années et ensuite 62. Et les premières 7 semaines d'années, donc 49 ans, sont l'époque pendant laquelle Jérusalem devrait être de nouveau une cité parfaite, rétablie. Mais 49 ans après Cyrus, 539, Jérusalem n'était pas du tout rebâtie. Alors, on pouvait déjà dans l'Ancien Testament savoir, il ne faut pas compter depuis ici. Mais depuis Artaxerxès, Néhémie 2, oui, parce que 49 ans après, Jérusalem était de nouveau une ville parfaite, symbolisée par le chiffre 7. Et on pouvait calculer les semaines d'années et on arrive avec ça à la venue du Seigneur à l'an 32 après Jésus-Christ. Parce que les années prophétiques de la Bible sont les années de 360 jours. Et ça joue exactement. Alors, vous voyez, des larmes de Babylone à la joie de Jérusalem, c'est un merveilleux renouveau avec l'espérance, le Messie va venir, le roi des rois, même que la maison royale de David avait été détruite brutalement. Et la dernière date, encore mentionnée, environ 420 avant Jésus-Christ, intervention de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Après, on n'avait plus de prophètes en Israël, mais on attendait la venue du Messie. On est retourné de la Babylonie pour aller au